Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes et comme chaque quatrième tumulte de chaque mois, nous vous proposerons le second volet de l'émission L'Intempestive réalisée par Fréquence Paris Pluriel et consacrée aux 30 ans des radios libres avec, pour cette fois, un portrait de Radio Canut à Lyon. Mais d'ici là, une demi-heure de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1061. Jean au micro, salut. J. Harvey, extrait de son nouvel album Let England Check, et le morceau qu'on a écouté s'intitule The World That Makes Murder. Autre nouveauté, Radiohead, extrait de leur nouvel album The King of Limbs, Morning Mr. McPie. Separator, Radiohead, extrait de leur nouvel album The Kings of Limbs. Et juste auparavant, c'était PJ Harvey, donc extrait de l'album Let England Shake. Le morceau s'appelait In the Dark Places. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Encore une nouveauté d'un genre très différent avec le chanteur iranien Ali Reza Gorbani et la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani. Un album qui s'appelle Ivresse et consacré au savant poète Omar Rayam, le sacre de Rayam. Extrait.
Thank you. اگر زباد مستی خوش باش خوش باش با ماه رخی اگر نشستی خوش باش
Reza Gorbani et Dorsa Famdani, extrait donc de l'album Ivresse, tout récemment paru, consacré au savant et poète Omar Khayyam, le sacre de Khayyam. Et dans Tumulte sur Radio PFM, comme chaque quatrième tumulte de chaque mois, nous vous proposons un second volet, cette fois-ci de l'émission L'Intempestive, émission réalisée par Fréquence Paris Pluriel et consacrée aux 30 ans des radios libres avec, pour cette fois, un portrait de l'histoire autogérée de Radio Canu à Lyon. L'Intempestive sur Radio PFM 99.9, émission réalisée par Fréquence Paris Pluriel.
Voilà, c'est l'intempestive.
Moi, l'idée, c'était toujours l'idée de... Bon, on essaye de faire passer un message. On continue la révolution. C'est un peu le défaut de ma génération. C'est-à-dire, on a raté dans les années 70. Et bien, on va essayer de continuer la révolution en utilisant la radio. Et puis, et bien, l'idée, c'était pas... C'était pas de faire une émission de musique, même si je pouvais aussi passer du Léo Ferré toute la journée. C'était pas ça. C'était on a un micro, on l'utilise pour continuer à essayer de faire avancer la révolution. Bon, on en était encore début des années 80. On n'avait encore pas complètement perdu l'espoir. On se disait, est-ce qu'on va pouvoir, sans employer des grands mots du mouvement révolutionnaire communiste ou trotskiste ou autre, par exemple, dire on va déborder la social-démocratie parce qu'avec la parole, on va les écraser, tout ça. On n'était pas naïf au point d'y croire, mais néanmoins, on pensait qu'on était encore dans cette période-là.
« Mais si, il faut y croire, toutes les périodes sont bonnes pour les révolutions. C'était la voix de Robert Michel, un ancien de Radio Canut, qui s'exprimait lors de la fête des 30 ans de cette radio. Puisqu'on poursuit aujourd'hui la série d'émissions sur l'histoire des radios libres, en s'intéressant à celle de cette antenne militante installée à Lyon. Une fois n'est pas coutume, c'est pas un vieux briscard des radios libres qui va nous parler, mais un jeune Canut, puisque l'équipe de Radio Canut est jeune. C'était d'autant plus intéressant de rencontrer Stéphane, membre de la commission programmation et du bureau de Radio Canut, que lui aussi est parti à la recherche de l'histoire des radios libres.
J'ai repris un projet qui a au moins 10 ans, qui était de faire un travail sur... de recherche sur l'histoire de Radio Canut, comment elle est née. Le projet au départ, c'est de faire un bouquin. On verra quand j'aurai plein de matière ce que ça donnera, quoi. C'est un projet qui a été initié par un ancien de Canut, qui est parti maintenant, qui participe encore des fois au Canut Info du lundi et qui participe aussi à Radio Zinzine des fois. Une fois qu'il a déménagé, il a abandonné ce projet. Il y a un collègue du bureau aussi qui l'a repris, parce que lui, il est docteur en histoire, enfin, il a un diplôme de fou comme ça, qui fait qu'il pensait pouvoir gérer ça. Finalement, il nous a fait des espèces de résumés à une époque qui nous tenait lieu d'histoire. Et après, il a abandonné. Et c'est là que j'ai repris, en trouvant que c'était quand même assez léger et frustrant de voir juste 2-3 trucs comme ça, en gros... avec des sources pas très vérifiées, enfin, un truc sur les histoires des radios libres, il y a quelques bouquins qui existent, on peut trouver des coupures de presse ou des trucs comme ça, mais en fait, ça représente pas énormément de choses. Quoi.
Ouais, tu me disais que t'avais commencé ce boulot, parce que tu trouvais que Radio Canut était une radio amnésique.
Oui, c'est un peu ça. Il y a à peu près 2 ans, on a eu une espèce de vague d'étudiants en anthropologie, il y en avait toujours des différents qui venaient nous voir. Bonjour, j'ai un devoir à faire, mon prof m'a envoyé à Radio Canut, il paraît que c'est cool. On sait pas qui a lancé ce truc là mais bon, au bout d'un moment c'était assez régulier. Donc on avait tout le temps des étudiants qui venaient aux réunions du bureau suivre le truc un petit peu pendant un temps, qui faisaient des devoirs. Alors après, ça dépendait des années d'anthropo qu'ils faisaient, donc je parle de la qualité de leur travail, quoi, pour nous, après, parce qu'on les a tous gardés. Il y en a qui étaient vraiment faits un peu à l'arrache. C'est-à-dire, j'arrive, je parle de mes impressions personnelles. Des fois, c'est très... Des fois, c'est vraiment, vraiment subjectif à fond, quoi. Je me rappelle d'une fille qui était venue à un bureau où ça se passait très mal, où on s'engueulait tous parce que... une broutille, c'était rien de très grave, mais c'était juste, je sais pas, il y avait de la tension. Et c'est apparu dans son devoir à la fin, Radio Canut géré par des conflits permanents, un truc comme ça. Mais bon, c'est un peu rapide, quoi, comme analyse. Et à côté de ça, il y en a d'autres. Il y en a un, par exemple, qui est venu faire une étude sur les Canut Info. Et suite à ça, ça lui a plu, il a intégré Radio Canut et il est même rentré au bureau, etc. Et lui, il avait fait un super devoir sur les Canut Info, qui sont un truc assez spécial à Radio Canut. C'est des équipes différentes chaque soir. On a plus ou moins comme objectif avoué de traiter l'info différemment. Alors ça peut varier vachement selon les différentes équipes. Par exemple, il mettait le doigt sur un truc qui est très typique au Canut Info selon les équipes. Il y en a qui veulent pas du tout avoir quelque chose à faire avec le concept de journaliste et d'objectivité de l'information. Et d'autres qui sont un peu plus dans un moule... Bon, on n'est pas tout à fait des journalistes parce qu'on n'a pas la carte, mais quand même, on est à fond, on a un peu les mêmes techniques et tout. Et du coup, c'était très intéressant, son boulot là-dessus. Mais c'est vrai que la plupart de nos Canut Info sont quand même très subjectifs.
Quoi. C'est quoi le Canut Info, alors ?
C'est des infos qui durent une heure, traitées selon la façon de faire de l'équipe en question. Bon, c'est vrai que souvent, les Canut Info, on fait beaucoup d'infos locales. On essaye surtout d'analyser le truc différemment, c'est-à-dire de ne pas relayer des espèces de propagande qu'on entend un peu partout, quoi. Mais ouais, il y a des équipes qui sont beaucoup plus branchées sur les luttes sociales du moment, qui sont il y a plein de gens qui participent au KNU Info, qui participent à côté de ça à des syndicats ou je pense à la CNT ou des trucs comme ça, mais qui participent pas au KNU Info à ce titre-là, mais qui ont une approche d'analyse de l'info qui est très sénétiste ou des trucs ou vachement comme ça. Il y en a aussi d'autres qui sont très Le Monde. Alors aujourd'hui dans Le Monde, nanana.
Donc on sait que le lundi soir, on va entendre parler des luttes sociales par la CNT, le mardi ça va être...
Par exemple, ouais. C'est plutôt l'inverse, mais c'est plutôt en fin de semaine que c'est comme ça. Et en début de semaine, un peu plus institutionnel, mais bon, en fait, c'est plutôt pas mal. Et aussi, récemment, il y a une équipe qui fait un KNU Info sur deux le mercredi, et qui est composée de gens qui font le site internet Rébellion, avec qui on fait pas mal de choses depuis quelques années. Depuis le salon de des alternatives et des écologies qui s'appelle Prime Vert à Lyon, qui est un peu un truc qui devient de plus en plus pourri, mais une année, ils ont fait une thématique sur les médias alternatifs. Et on s'est regroupé à plusieurs pour créer un truc qu'on a un peu appelé c'est mal, oui, c'est point mal, c'est mal, ouais. Ça dépend comment on le dit. Et dont Rébellion faisait partie, c'était un peu né d'une constatation que sur deux, trois grandes grèves nationales ou des luttes assez importantes, on avait tous été un peu à la ramasse. Alors pour des trucs d'information, c'est un peu dommage. On s'est dit qu'on ferait plus tourner les informations, qu'on essaierait plus de faire des choses ensemble. Et du coup, eux, ils sont mis à faire un KNU Info. Je dirais pas que les gens de KNU ont beaucoup participé à Rébellion, parce qu'il y a quand même une bonne équipe qui travaille beaucoup, puis que c'est pas du tout le même genre, c'est-à-dire que c'est informatique, quoi. Donc, les gens qui parlent derrière un micro, les gens qui tapotent sur un clavier, souvent, c'est pas les mêmes pratiques. Donc, eux, ils ont réussi à faire le pas, mais nous, on l'a pas trop fait. Après, sur notre site, il y a des liens pour aller sur l'heure, enfin...
Ouais, parce beaucoup que de choses comme ça. C'est pas mal, c'est pour coordination, oui. Des médias alternatifs lyonnais.
Voilà. Et bon, c'est parti sur une grande idée comme ça. Après, c'est vrai que dans ces points mal, finalement, il n'y a que Rébellion et Radio Canu qui continuent et qui, je dirais, qui sont un peu efficaces. Quoi. Parce qu'au début, il y avait un petit journal papier qui s'appelait Popourri, qui... dans lequel beaucoup de gens de KNU ont participé aussi, mais enfin, c'est un peu toute une petite nébuleuse, quoi. Et en fait, ce journal a arrêté depuis, donc voilà. Et puis, il y avait aussi un collectif qui s'appelle Les Résistants. Il fait des petites brochures, et on peut les trouver à des endroits...
Tu sais pas où.
Que je sais pas trop où, mais par-ci, par-là, dans des concerts... dans l'espèce de squat qui a été officialisé, qui a beaucoup changé, qui s'appelle La Friche, qui est une ancienne usine reconvertie, qui est maintenant devenue très, très arty et très... Enfin, y a plein de conflits à l'intérieur de ce truc, je pense que c'est beaucoup trop gros pour qu'il n'y en ait pas, justement.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera.
arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui gronde.
C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
Toujours dans l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel, c'était Marc Augeret qui interprétait les canuts. Tout de suite, on revient avec Stéphane pour parler de l'histoire de Radio Canut.
Quand est-ce que, déjà, est-ce qu'il y a une existence pirate de Radio Canut ou est-ce qu'il y a eu une autre radio de laquelle est née Radio Canut?
Alors en fait, d'après ce que j'ai retenu des différentes interviews et entretiens que j'ai fait avec des anciens quoi, de Canut, ou pas, tu vois. Il semblerait que c'est un peu commencé fin 77, début 78. Là, par contre, il y a des désaccords. Mais, enfin, l'année dernière, quand on a décidé de fêter nos 30 ans, on a décidé que 77, c'était une année qu'on aimait bien. Donc, ce serait un peu celle-là. Donc oui, elle a commencé en pirate. Elle a commencé par des réseaux un peu nationaux autour de la lutte pour les radios libres. Donc c'était beaucoup des gens au début qui voulaient faire de la radio libre. Mais ce qui est assez intéressant en les rencontrant, c'est que c'est pas forcément des gens qui avaient très envie de faire de la radio pour la radio elle-même. C'est-à-dire ils n'avaient pas forcément des idées de programmation, de programme radiophonique. Ils avaient juste beaucoup d'envie de libérer les ondes du monopole qu'il y avait à l'époque. Donc il y avait des liens qui étaient un peu sur toute la France. Et sur Lyon, il semblerait qu'il y avait un paquet de personnes qui s'y intéressaient. Et donc 77-78, il y a des gens qui ont commencé une radio pirate qui s'appelait Radio Canut-Guignol, qui était sur une modulation de fréquence, sur plusieurs fréquences selon les jours, mais qui n'avait pas trop de problèmes avec la police, a priori, du moins. Enfin, qu'on n'en a jamais trop eu. Ils n'ont jamais trop eu de problème de brouillage, par exemple, des choses qu'on retrouve à d'autres endroits de la France. Ici, ils n'avaient pas des gros émetteurs, donc des fois, c'était du 4 watts ou je sais pas quoi, ça devait couvrir un quartier, quoi. C'est des gens qui faisaient des fêtes de soutien pour payer des émetteurs achetés en Italie de façon illégale pour ensuite les passer à d'autres radios en France ou en garder un pour Canut-Guignol à l'époque. Et à la même époque, il y avait aussi beaucoup de luttes qui ont un peu unifié tous ces gens. Je pense au rassemblement du Larzac qui en avait déjà à cette époque. Tout un mouvement contre le nucléaire aussi qui a pas mal motivé beaucoup de gens à faire de la radio. Et plus tard à Lyon, une des espèces de rencontres de l'écologie. Donc à l'époque c'était pas tout à fait comme maintenant quoi. On peut dire que c'était bien plus alternatif. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a des gens donc de Canut-Guignol, plus plein d'autres gens qu'ils ont rencontrés pendant ces luttes. Comme il y avait deux groupes qui se définissaient comme radio, mais qui en fait n'avaient quasiment jamais émis et qui n'avaient pas de matériel. Il y a a priori des filles, plus ou moins de la mouvance féministe, qui se donnaient l'appellation Radio Pipelette. Je suis pas sûr qu'elles aient émis plus d'une heure, qu'elles aient eu plus d'une heure d'existence en fait. Et des étudiants qui se faisaient appeler Radio Lézard. Tous ces gens-là se sont mis d'accord pour faire quelque chose, une nouvelle radio. Mais j'oublie une petite partie, c'est que les gens de Canut-Guignol, s'ils s'étaient mis avec tous ces gens-là, c'est qu'ils avaient fait en sorte en fait, d'avoir des procès, de se faire saisir une partie du matériel de Canut-Guignol pour faire des espèces de... pas de jurisprudence parce que ça n'a pas marché, mais en tout cas pour faire parler de cette histoire de radio libre et de contribuer au débat. Et puis je pense qu'ils l'ont fait aussi parce qu'ils en avaient peut-être marre de faire cache-cache avec la police. Et donc bon, plus tard, tous ces gens se sont mis ensemble autour d'un projet qu'ils ont appelé Radio Léon. Donc un projet vachement plus ouvert, toujours sur une idée de radio associative. Je ne sais pas trop en quelle année ça a commencé. Toujours est-il qu'en 85, Radio Léon n'existait plus, parce que suite à la libéralisation des ondes en 81, beaucoup de gens au sein de Radio Léon ont fait un peu le choix, très maladroit à l'époque, d'essayer de se professionnaliser. Il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça normal de rémunérer leurs journalistes. Hein, c'est sûr que quand on pose le problème comme ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne réponse, quoi. Il y en a qui se disaient journalistes à l'époque là-bas. Donc forcément, ils estimaient produire un travail. Et pour rester indépendant, il fallait quand même avoir de quoi manger, etc. Enfin bref, ils se sont posés plein de soucis comme ça. Ils faisaient pas de publicité, mais à l'époque, il y avait des MIC, des messages d'intérêt général, qui avaient beaucoup cours à Radio Léon. Alors souvent, c'était des spots institutionnels sur la santé, des trucs comme ça. Et malgré tout ça, ils n'arrivaient pas à remplir leur caisse. Et puis, il y avait beaucoup de tensions au sein de l'équipe, parce qu'il y avait des gens très différents. Et donc, il y a à peu près tous les anciens de Canu Guignol, ou en tout cas ceux qui restaient à Radio Léon, ont décidé de partir et de créer Radio Canu. Ça, c'est en 81. Donc, en même temps que l'élection de Mitterrand, la bonne nouvelle pour les radios libres, etc. Et donc au début, avec Léon, ils avaient encore des rapports plus ou moins amicaux, même si les gens de Canu sont partis avec leur émetteur. Bon, ils ont attendu que Radio Léon puisse s'en trouver un autre, mais a priori, il était moins bien. Ça, c'est des aspects techniques. Mais je pense qu'au niveau des relations entre les gens à l'époque, ça devait jouer quand même. Bon, on n'est pas content, on s'en va avec notre matériel. Voilà. Et Radio Canu a démarré à ce moment-là, dans des petits locaux, genre chambre de bonne sous un grenier, un peu plus haut dans les pentes de la Croix-Rousse, mais sur un fonctionnement très collectif, associatif, avec du départ une volonté de ne pas avoir de permanent, pour pas rentrer un peu dans ce cercle vicieux de courir après l'argent pour payer ce permanent, qui en plus, même s'il le veut pas vraiment, donne forcément une espèce d'identité à la radio qui lui correspond à lui et moins à un collectif, quoi. Enfin, déjà, il y avait un peu toutes les bases que Radio Canu a toujours maintenant.
Toujours dans l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel, on est donc avec Stéphane qui nous parle de l'histoire de Radio Canu. Et on va tout de suite écouter un extrait d'une archive qui est en ligne sur le site de Radio Canu, l'émission qui a été réalisée lors des 30 ans de la radio. On écoute donc tout de suite Pascal et Robert qui évoquent la première époque de Radio Canu.
Ah ben c'était du grand folklore, ça marchait un peu comme ça marche aujourd'hui, mais dans des locaux différents, rue Poutot. Et bon, c'était, les débuts d'une radio qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a envie de fonctionner quand même. Donc la technique n'était pas du tout isolée du studio. C'était dans une toute petite pièce. Après, c'était dans une plus grande pièce, avec une table ronde, des micros installés en rond, voilà. Et c'était un peu drôle parce que c'était rue Poutot. Donc il y avait un grand immeuble de Canu. Donc on montait les escaliers, on rentrait, etc. Mais alors à l'époque, il y avait des batailles homériques, Robert, avec Radio Léon encore, quand je suis arrivée, puisque quelquefois on arrivait et tout avait été dévasté. Et alors on s'empressait d'accuser les gens de Radio Léon, dont Robert faisait partie encore à l'époque. On les accusait d'avoir voulu faire capoter Radio Canu, d'avoir coupé les micros, d'avoir coupé les fils, etc. Donc c'était un peu les batailles rangées entre radios à l'époque. C'était à qui allait survivre finalement ? Et qui défendait le meilleur projet politique, etc., etc. Donc voilà. Et alors c'était drôle, mais c'était déjà avec une forme donc de participation à la gestion de la radio, etc. Chacun était responsable de ce qu'il faisait. Et voilà quoi. C'était Radio Canu, c'était la même qu'aujourd'hui pratiquement, mais à part que les locaux étaient bien moins beaux.
Alors justement sur cette guerre entre Radio Canu et Radio Léon, c'est quoi les deux orientations politiques qui ont fait que les gens n'ont pas pu se mettre ensemble pour faire une radio?
D'avoir des salariés.
Simplement, ce que je voulais aussi préciser sur les batailles de la rue Poutot, c'était que les premières émissions, enfin le programme d'émission de Radio Canu s'appuyait beaucoup sur les rockers. C'était la grande époque des rockers. Un rocker dur, alternatif, bagarreur, avec le meilleur et le pire. Et beaucoup d'émissions de rock se faisaient aussi à Radio Canu, avec des gens qui, à la limite, et c'est pas du tout pour les stigmatiser, mais des gens qui finalement n'en avaient à la limite rien à foutre de l'outil. Pour eux, et bon, c'est une espèce de défoulement rocker, et Radio Canu, début des années 80, a connu aussi cette période. Et puis, certains mais c'était intéressant parce que c'était vraiment Radio Canu qui captait ou ouvrait la porte à un message populaire profond qui était le message des rockers. Et je le dis avec tout ce que ça pouvait comporter de meilleur et de pire.
Et puis petit à petit, l'association s'est un peu étoffée. Ils ont commencé à réfléchir à à comment avoir des programmes assez intéressants et conséquents. Et ensuite, Radio Canu a déménagé dans ces locaux dans lesquels on est maintenant, rue Sergent Blandan, donc en bas des pentes. Et voilà, après, il y a eu plusieurs tribulations. C'est vrai que Radio Canu a galéré pendant plusieurs années pour avoir une fréquence attribuée officiellement. Il semblerait qu'on était dans les derniers, malgré que on émettait parmi les premiers. Mais voilà, c'était un peu plus compliqué. C'était aussi une époque où, a priori, comment s'appelle la grande instance audiovisuelle,
la
Haute Autorité, essayait de jumeler des radios. Il y en a beaucoup qui disent que c'était plein d'histoires de mainmise politique, beaucoup de la part du PS, mais bon, pour Radio Canu, il semblerait que c'était pas trop ça. Par contre, c'est vrai qu'ils ont essayé de nous jumeler avec des radios qui nous ressemblaient pas du tout, contre lesquelles on n'a rien spécialement, mais qui n'étaient pas comme nous, quoi, que ça pouvait pas fonctionner. Ils avaient essayé avec Sol FM, qui existe encore à Oullin, et qui est aussi assez associative, mais qui est pas très collective. Et ça le faisait pas, donc finalement je crois que la vraie fréquence en 2.2 a été attribuée en 85, d'après le journal officiel qu'on a retrouvé. Voilà, celui-là au moins on est sûr. Mais voilà pour ce que je sais de l'histoire de Canu au début, quoi.
Et pourquoi le nom Radio Canu,
c'est qui on dit ? Oh bah ça, c'est assez facile à deviner, c'est plutôt Guignol que j'ai jamais trop compris. Radio Canu, parce que à la Croix-Rousse, les Canus sont les ouvriers de la soie qui ont participé à des soulèvements. Et oui, ils avaient fait toute une révolte dans les pentes de la Croix-Rousse parce qu'ils étaient très pauvres, ils vivaient dans une misère assez incroyable. Et il y a eu pendant un temps des espèces de hausses de prix, enfin des espèces de trucs qu'on pourrait maintenant appeler du capitalisme, qui leur sont tombés dessus et qui, a priori, les auraient rendus encore plus misérables. Donc ils ont choisi de se révolter. Bon, ça n'a pas marché, mais ça reste très symbolique. Du coup, je pense que ceux qui ont créé Radio Canu ont choisi un peu le symbole le plus fort de la Croix-Rousse de Lyon, de laquelle on émettait, quoi. Même si beaucoup de gens de Radio Canu au départ n'étaient pas du tout du centre-ville de Lyon, mais plutôt de tout ce qui est périphérie de Lyon, Vénissieux, tout ça. Et peut-être au début, Guignol, c'est pour le côté sympa, rigolo, de la marionnette de Lyon qui tape sur les gendarmes. Mais après, ils ne l'ont pas gardé. Quant à Radio Léon, le premier président de Radio Canu, en fait, Eric Fabre, que j'avais interviewé l'année dernière, et qui est décédé il y a peu de temps, m'avait dit qu'en fait, ils faisaient plein de réunions, ils n'arrivaient pas à trouver des noms qui correspondaient à tout le monde. Donc c'était très énervant, et ça devenait très conflictuel, cette question. Et puis ils s'étaient réunis un jour chez une copine à eux, qui est hébergée pour la réunion. Et il y avait un jeune qui était là, qui en avait marre, et qui caressait le chat. Et le chat s'appelait Léon, et il a fait « Bah, on a qu'à l'appeler la Radio Léon, non ?» Et c'est resté. Beaucoup de gens les ont ensuite accusés peut-être appelé Radio Léon à cause de Trotsky.
Ah,
mais en fait, non, c'était un chat.
Il y a d'autres, radios libres qui ont été légalisées à la même époque que Canut sur Lyon, avec lesquelles vous avez travaillé ou avec lesquelles vous n'avez pas travaillé, justement.
Je sais qu'il y a Sol FM à Oulin, avec lesquels on n'a jamais rien fait, à part leur envoyer des animateurs pour bosser chez eux. Parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont venus à Canut faire leurs premières armes un peu radiophoniques et qui finalement se sont dit qu'ils bosseraient bien là-dedans. Sauf que c'est pas possible à Radio Canut, donc ils sont allés ailleurs. Et à Sol FM, je sais qu'il y en a 2-3 comme ça. Eux, ils font partie des vieilles stations qui datent de la même époque à peu près, qui n'ont pas fait du pirate non plus à la fin des années 70, mais qui datent de 81 à peu près. Et sinon, RCT à Lyon, Charpennes-Tonquin, je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle date aussi à peu près de cette même période. Ce qui est sûr, c'est que, non, a priori, à Lyon, des radios pirates de la lutte des radios libres, à part Canut, il n'y en a pas qui sont restées. Mais il y en avait très peu, en fait. Et même Radio Canut, avant d'être Radio Canut, quand c'était Canut Guignol, c'était quand même très anecdotique, quoi. C'était des petites luttes dans le coin. Vous pouviez capter Radio Canut à certaines heures. C'était très court et c'était pas un signal très très clair. Donc il fallait vraiment être très intéressé par les radios libres.
Comment en 85, comment elle se définit Radio Canut?
Ben alors après c'est une autre histoire. 85, c'est à peu près une époque où... où tous les fondateurs, en gros, sont partis. Enfin, ça s'est passé sur plusieurs années dans le temps. Mais c'est vrai que tous ces mouvementistes, je dirais, qui étaient là au début, qui étaient surtout intéressés pour la libéralisation des ondes, ont ensuite abandonné un peu le projet, l'ont un peu passé à d'autres, des fois avec un peu de ressentiment, des fois non, parce que c'est vrai que... Pour ceux qui ont participé à l'époque pirate, voir des gens arriver une fois que c'est légal et dire « Ouais, mais nous, les radios libres, on a tout le temps été d'accord, etc. » mais qu'ils n'ont jamais rien fait. Il y en a beaucoup qui ont fait « Bon, bah, c'est plus la même génération de gens qui font de la radio. » Donc petit à petit, toutes ces personnes sont parties, à part 2-3. Et donc Radio Canut a commencé à se chercher un peu une identité à partir des gens qui la composaient. Même si on a des statuts, un règlement intérieur et des grandes phrases qui cadrent un peu l'esprit de la radio, mais il semblerait en fait que pendant les années 80, il y a beaucoup de présidents de l'association qui est plus ou moins consciemment, je sais pas trop, choisi d'être plutôt apolitique et neutre, et d'être en gros une radio très culturelle, etc. Ce qui a toujours aussi été une marque de fabrique de Canut, c'est-à-dire notre slogan « Donner la parole à ceux qui l'ont pas », elle était, c'était très d'actualité malgré cette volonté de ne pas se politiser en tant que Radio Canut. Et je dirais que vers la fin des années 80, début des années 90, il y a aussi un autre tournant, c'est cristallisé autour d'un président qui commençait à être un peu dictatorial, quoi, et qui pendant son mandat et les mandats un peu avant lui brisait un peu l'aspect gestion collective, alors que normalement Radio Canut est très attaché à aux valeurs de l'autogestion. Et donc il y a eu une AG où a priori ça a un peu pété entre les gens qui avaient plutôt des envies d'engagement plus fort politique de la part de Radio Canut et ceux qui pensaient qu'il fallait surtout pas s'immiscer dans ces trucs-là. Qu'a priori, les politiques ont plus gagné. Et à partir de là, Radio Canut a commencé à plus s'engager à l'extérieur. Il y a des souvenirs d'avoir fait une banderole à Radio Canut, d'avoir défilé contre Charles Millon à Lyon. Et en gros, il faisait des alliances avec le FN à cette époque-là. On avait décidé de manifester sous la banderole Radio Canut et pas sous le cortège de la CNT ou de je sais pas quels amis qu'on peut avoir en manif, quoi. ce qui était assez intéressant. Et c'était vraiment une rupture avec le début des années 80. C'est comme la collaboration avec Rébellion, là, où le C'est Point Mal, a priori, dans ces années-là, c'était quelque chose d'inconcevable. Alors ça vient aussi du fait, je pense, d'après tous les entretiens que j'ai pu avoir, qu'au début des années 80, beaucoup de radios, en tout cas sur Lyon, pour ce que j'en sais, de radios associatives, avaient très peur d'être noyautées par des groupes politiques. Donc ça peut-être expliquer toutes ces ambitions de neutralité qu'ils avaient à l'époque, mais c'est sûr que ça a fait un tournant quoi, dans Radio Canut. Et pareil, du coup, la radio s'est plus ouverte sur l'extérieur, en instaurant les repas de quartier du 1er mai qu'on fait maintenant tout le temps sur la place qui est à deux pas des studios, qui commence à devenir un truc assez monstrueux. Et en organisant des concerts, par exemple, ou des projections de films, chose qui n'est pas du tout radiophonique, mais qu'on trouve intéressant, quoi. Voilà, tout ça, a priori, dans les années 80, ça se faisait pas du tout. Et le fonctionnement de Canut, malgré ses bases associatives et sa vocation d'autogestion, tout ça finalement c'était assez pyramidal, quoi, qui était assez paradoxal. Mais voilà, a priori maintenant ça c'est réglé.
Radio Canut 102.2, la plus rebelle des radios.
1977. C'est de la haute fidélité, vous voyez ? De la hi-fi, c'est-à-dire de la haute fidélité. Ça renvoie hautement et fidèlement le son. C'est de la hi-fi, quoi. Et c'est très important quand on a la stéréo.
Qu'est-ce qui est venu avant ? La musique ou bien le malheur ? On n'aime pas voir les gosses jouer avec des pistolets. Vous regardez des films violents, on a peur que cette culture de la violence ne prenne le pouvoir. Ouais, mais par contre, personne s'inquiète quand les gosses écoutent des quantités industrielles de chansons qui parlent de cœur brisé, de trahison, de perte, de malheur et de douleur. Est-ce que j'ai écouté de la musique parce que j'étais malheureux ou bien est-ce que j'étais malheureux parce que j'écoutais de la musique ? L'important, c'est le goût des gens, pas ce que sont les gens. Aucun disque, film, ça c'est important. Je suis superficiel, d'accord, je sais que c'est vrai, c'est tout.
Voilà, c'est comme ça que commence Haute Fidélité, une des émissions actuelles de Radio Canut, donc le 102.2 à Lyon. Mais vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, le 106.3 à Paris, et on est en train de discuter avec Stéphane de l'histoire de Radio Canut.
Développer sur ce que tu as évoqué plusieurs fois sur cet aspect autogestionnaire, quoi, sur le mode d'organisation vraiment de Radio Canut. Comment ça marche Radio Canut ?
C'est un peu un idéal qu'on aimerait atteindre, je pense, parce que dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Mais en gros, l'ambition de Radio Canut, c'est de fonctionner le plus possible en horizontal, c'est-à-dire tous les membres de Radio Canut participent aux grandes décisions du moment, quoi. Pour l'instant, ça fonctionne, y a des animateurs, des animatrices. Et parmi ces animateurs et animatrices, chaque année, on élit des personnes qui constituent le bureau, dans lequel il y a des postes qui nous sont imposés par la préfecture pour une association 1901, comme président, trésorier et secrétaire général. Mais à ces postes-là, on a rajouté la commission programmation, donc deux personnes qui écoutent les projets et qui débattent entre eux, savoir si c'est bien d'y proposer officiellement au bureau ou pas. Il y a deux personnes aussi qui font ce qu'on appelle la commission musicale, c'est-à-dire en gros traiter et gérer tous ces CD ou disques qui nous arrivent, répondre à des labels qui croient qu'on sait vraiment ce qu'on diffuse, c'est-à-dire leur dire combien de fois on a diffusé tel ou tel titre de tel ou tel artiste dont on se moque éperdument. Parce que chaque animateur est libre de sa programmation dans son émission. Donc le seul cadre qu'on donne quand on fait la prog aux gens qui viennent amener un projet musical, par exemple, c'est... Bon, à part le fait de ne pas tenir de propos sexistes, racistes et de faire du prosélytisme religieux, ce qui tombe un peu sous le sens ici. Il y a aussi le fait que, comme on est une radio qui fait pas de publicité ou de partenariat, on essaye aussi musicalement de passer des choses différentes ou en tout cas non commerciales, quoi. C'est-à-dire que les gros labels qui nous inondent de prod complètement montés de toutes pièces par des managers, souvent ça nous intéresse pas. On fait pas de la radio pour faire plaisir à ces labels, mais pour se faire plaisir à nous et aux gens qui nous écoutent. Enfin, en général, on se différencie pas trop des auditeurs. Il y a très peu d'animateurs à Radio Canu qui ont une espèce d'animation qu'on entend sur toutes les grosses radios, quoi. Par exemple, si je prends une super voix comme ça et que bonjour, vous êtes, eh ben, ça on le fait pas à Radio Canu parce qu'on a l'impression que on se moque un peu des gens qui nous écoutent, quoi. Alors que ça a ses limites, mais au moins quand on entend Radio Canu, quelqu'un qui parle à Radio Canu, on sait que c'est Radio Canu. S'il parle comme il parle dans la vie, et c'est très bien. Voilà, donc il y a plusieurs petits postes comme ça qu'on a greffés au poste de base parce qu'il fallait mettre des noms sur ces choses-là. Je pense que ça date d'ailleurs un peu de ces années 80 où le fonctionnement était un peu plus pyramidal. Du coup, il y avait des postes très clairs assignés à certaines personnes qui avaient certaines tâches à faire, etc. Maintenant, c'est quelque chose qu'on essaye de gommer le plus possible. Même si c'est vrai que il reste la division entre les gens qui font partie du bureau et les gens qui n'en font pas partie. Je pense que ça, c'est un problème qu'on résolvera jamais parce qu'une radio comme ça a besoin d'un petit noyau de personnes qui ont le temps, l'énergie, l'envie de s'impliquer dedans, et qu'il y en a plein d'autres qui ont soit pas le temps, soit pas l'envie, soit pas l'énergie, soit les trois à la fois pour le faire, quoi. Donc,
Vous êtes combien, là, du coup, à bosser à
Radio
Canu?
À bosser, zéro, mais...
Ouais, non, mais je veux dire, tout ça.
C'est assez compliqué à dire aussi. Je sais qu'au bureau, on est entre une dizaine et une quinzaine de personnes, selon les années. Et ensuite, les animateurs, il y a un peu plus d'une cinquantaine d'émissions qui sont toutes en direct. Et au sein de ces émissions, les équipes sont... ça peut être une seule personne, ce qu'on appelle un membre actif, un membre référent, en fait. Mais ensuite, si cette personne veut faire son émission avec 14 potes, y aura 14 animateurs qu'on ne connaîtra pas forcément. Tout le monde ne se connaît pas forcément à Radio Canu. Enfin, y a que pendant les grands rendez-vous, comme l'Assemblée Générale et ce qu'on appelle le Conseil des émissions, qui sont un peu des mini-AG qu'on fait à peu près tous les 3 mois, et qui sont des AG sans le côté chiant administratif, en fait. Il n'y a qu'à ces occasions-là qu'on se rencontre un peu tous, ou bien lors d'événements qu'on organise à l'extérieur. Et on découvre tout le temps des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas, qui font partie d'un Radio Canu au même titre que nous.
Je sais qu'il y a un petit, vous avez mis un petit avertissement pour les gens qui veulent proposer une émission, en disant, attention, vous rentrez dans Radio Canu, il faut vraiment s'engager, quoi. C'est-à-dire... Chaque personne s'engage à faire une heure d'émission par semaine et à payer une cotise de 10 euros.
Oui, alors ça fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire, comme toutes les radios associatives, on vit principalement du fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc une taxe sur les régies publicitaires, enfin j'imagine que tu as déjà vu ça avec d'autres radios. Et à part ça, tous les animateurs de Canu cotisent aussi à Radio Canu par mois. C'est 14 euros et c'est c'est pas par animateur mais par nom d'émission, on va dire. La tournure de phrase qu'il y a sur le site c'est fait exprès en fait pour motiver un peu les gens de Radio Canu à s'impliquer plus, ou ceux qui veulent rentrer à Radio Canu pour qu'ils comprennent que c'est pas juste de la consommation d'antenne, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu un problème aussi récurrent pour les gens du bureau de Radio Canu qui sont très investis dans Radio Canu, de côtoyer des gens qui font partie de Radio Canu, mais qui en fait se contentent de faire un chèque à la fin du mois et de venir à l'Assemblée Générale une fois par an, quoi. Et, dans un fonctionnement collectif, c'est très embêtant, en fait. C'est-à-dire que il y a cette différenciation entre les gens du bureau et les animateurs qui font que leur émission, mais les animateurs et les animatrices de Radio Canu cultivent aussi cette coupure, quoi. Savoir, il y a les gars là qui s'en chargent, c'est cool, du coup nous on n'est pas obligés. En plus maintenant quand on envoie les comptes rendus de réunion par mail, ils sont tous au courant de chez eux, de ce qui se passe, et ils n'ont pas forcément l'envie de venir. Et souvent, à Radio Canu, on s'est dit que c'était à la commission programmation d'aplanir un peu les choses, de former un peu les gens à ça, quoi.
Tu parlais du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Et je crois qu'à un moment, Radio Canu s'est vraiment posé la question de... Est-ce que c'est judicieux de devenir dépendant du FSER? Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on revendique cette subvention-là?
Il y a une constatation qu'on a fait et qui, a priori, date pas d'hier non plus à Radio Canu, c'est que on est très peu, enfin Radio Canu possède très peu de gens très calés en technique. Et donc, pareil, au début des années 80, on a fait le choix d'être diffusé par l'antenne de TDF à Lyon. Chose qu'on n'était pas du tout obligé de faire et qui, sur le principe, nous rend un peu dépendants de TDF, même si TDF n'est plus l'organe de répression de la fin des années 70, mais... Enfin, il y avait ce questionnement.
Préciser, ouais, c'était TDF, Télédiffusion en France, c'était eux qui étaient chargés de faire le brouillage.
Ouais,
de
voilà, ouais. Et bon, maintenant, ils sont plutôt sympas, en tout cas, ceux de Lyon, ils sont très marrants, ils nous aiment beaucoup. Je crois qu'on est un peu une récré pour eux quand ils viennent nous voir. Et on a fait le choix de passer par eux, tout simplement parce que l'autre choix, c'est d'avoir son propre émetteur et de l'entretenir soi-même. Bref, d'avoir des compétences qu'on n'a pas. Et si on les a pas, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par quelqu'un qui les ait. Et finalement, sans poindre le côté, il va falloir avoir un permanent, au moins qu'il soit technicien, etc. Et qui finalement aura vachement de pouvoir sur la radio. Tandis que là, TDF, ils nous demandent rien, ils sont loin, ils vont, ouais, bon, d'accord, on leur dit, on veut ça, ils vont, bon, bah ok, ça coûte tant. Alors forcément, ça a un coût, et du coup, le fonds de soutien devient très utile, quoi. Mais c'est vrai que sinon, le fonds de soutien, on pourrait peut-être s'en passer, quoi, à part le loyer, le téléphone, l'électricité, tout ça fait pas énorme. Par contre, la location de l'antenne à TDF, ça, c'est quand même assez conséquent, quoi.
Et il y a eu des menaces d'ailleurs sur la fréquence au cours de l'existence de Radio Canu, et des luttes pour préserver la fréquence ou pas?
Pas vraiment, non. Non, non. Il y a des petits épisodes. Je sais qu'au tout début de Radio Canu, d'après un témoignage aussi, il y a une fréquence commerciale qui s'est installée à proximité de notre signal et qui du coup nous parasitait tout le temps parce que pendant de nombreuses années, TDF nous donnait un signal faible, enfin, ça correspond à des contrats avec TDF et nous on a pris le moins cher, donc on avait un signal faible. Et du coup ils nous parasitaient tout le temps, mais ça s'est réglé a priori avec 2-3 menaces téléphoniques.
D'accord. Et il y a un moment où il y a eu une interruption de l'antenne par contre de Radio Canu, à ses tout débuts je crois.
Oui, à ses tout débuts, oui, parce que y avait cette haute autorité là qui voulait pas... qui traînait les pieds pour attribuer une fréquence ou qui voulait qu'on se mêle à d'autres radios, qu'on partage la fréquence. Ce qui en fait a pas mal découragé des gens à Radio Canu. C'est aussi la période où tout l'aspect pratique et quotidien se mettait en place. Du coup, il y a tous les anciens qui étaient un peu fatigués d'avoir lutté au début, qui commençaient à quitter le truc. Sans anciens qui cadrent un peu le truc pour les nouveaux, c'est un peu dur. Du coup, il y a eu pas mal d'interruptions comme ça. Et puis le fonds de soutien, on l'a pas eu du tout tout de suite. Donc il y a eu aussi pas mal d'argent au début qui manquait. Et il y a eu pas mal d'essais pour pallier à ça. Des essais de caisses noires, de trucs bizarres, de fêtes de soutien. Je sais qu'il y a eu aussi des espèces de souscriptions qui ont été lancées pour récolter de l'argent. Et donc il y avait une association parallèle qui s'est montée, qui s'appelait les Amis de Radio Canu, et qui servait un peu de caisse noire, ouais, justement. Voilà, a priori, elle existe toujours cet asso, mais plus personne s'en occupe et même nous, on a du mal à remettre la main dessus.
Comment améliorer l'image de la classe politique auprès des Français? Il y a là un problème de communication majeur.
Et là, les publicitaires et les médias peuvent beaucoup nous aider.
Tout à fait, tout à fait. Je vais chercher les plus forts. Je vais vous aider.
Alors on se rattrape ce soir, on n'a pas parlé des municipales pendant toutes ces campagnes, on fait un petit bilan avec la réélection de ce cher Collomb, et dans le Progrès de ce dimanche on retrouve un portrait de notre bon maire de Lyon qui est reparti pour 6 ans, et donc le Progrès prend ses précautions, hein. On sait que c'est pas la teuf au quotidien lyonnais, ça licencie, ça perd des thunes, et donc il faut savoir assurer ses arrières. On se souvient que lors de son premier mandat, Gérard Collomb avait sucré les vivres à Lyon Capital et à Tribune de Lyon en arrêtant d'acheter de la pub dans ses journaux suite à des articles dénonçant les pratiques mafieuse de Collomb. D'ailleurs, le rédac-chef de Lyon Capital s'est pris une baffe la semaine dernière lors du premier conseil municipal de la mandature. La femme de Gérard Collomb, Caroline, a giflé le rédacteur en chef de Lyon Capital dans la cour de l'hôtel de ville, avant même qu'ils aient échangé un mot. C'est ce qu'on pouvait lire dans Libé ce week-end. Elle l'a giflé par rancœur, a-t-elle déclaré, puis elle s'est excusée. Enfin bref. Le Progrès est soucieux de son avenir et son rédac-chef n'a pas envie de se prendre des baffes de la part de Madame Collomb, donc ils ont publié dans leur édition d'hier un portrait préventif pour dire tout le bien qu'il pensait de notre maire. C'est sous la plume de Jacques Boucaud qu'on peut lire que Collomb est un homme fidèle, qu'il est ouvert aux humanités, qu'il est porté par des convictions réformistes, qu'il est proche des gens, qu'il est galvanisé par les fêtes de quartier, les encas au comptoir des bistrots. On peut lire aussi qu'il fonctionne à l'affect, qu'il ne supporte pas l'esprit courtisan, qu'il préfère les bosseurs aux beaux parleurs. Et ils ont raison, au Progrès, de lui lécher les couilles à Gérard, c'est plus prudent. Et on va faire de même ici, on sait jamais, hein, Gérard commence à prendre du pouvoir quand même, élu au premier tour, et donc on va lui offrir un spot publicitaire pour son deuxième mandat. Dans les vues de Radio Canyon, ne diffuse jamais de pubs, là c'est spécialement pour toi, à toi, GG.
Attention, la République française présente la deuxième saison de la série la plus rose bonbon rose concon, tournée à Lyon.
Le cancer du colon.
Dans la première saison, il s'est marié avec JC Déco. Il a filmé la vie intime des Lyonnais. Il a creusé des souterrains pour entasser des voitures. Il a accueilli à bras ouverts des criminels de guerre. Il a financé la retraite de Bill Gates en transformant toutes les institutions municipales en clients officiels de Microsoft. Il a censuré la presse en coupant les vivres à certains journaux lyonnais. Il a puni les colleurs d'affiches. Il a expulsé des squatteurs. Il a déporté des prostituées de quartier en quartier. Il a empêché les associations de sans-papiers et de défense des Palestiniens de s'exprimer. Il a accueilli Monsanto. Il a fait Biovision Biosquare. Il a donné l'eau du robinet à Veolia. Il a récupéré la culture électro en la transformant en cocktail mondain pour Parisiens au week-end. Et il a mis des écharpes roses à tous ses amis.
Et en plus, il remet ça. Gérard Collomb. Yeah. Mais que va-t-il bien pouvoir faire cette fois-ci?
Va-t-il mettre des caméras de surveillance à l'intérieur des logements?
Va-t-il planter des OGM sur les berges du Rhône? Va-t-il vendre l'opéra à Bernard Arnault? Va-t-il transformer le stade de Gerland en lieu d'exécution publique pour les prostituées et les sans-papiers? Va-t-il nommer un milliardaire qui roule en Ferrari au budget?
Bon, ça c'est déjà fait. Mais pour le reste, vous le saurez en restant 6 ans à Lyon.
I love Lyon.
Ouais, ben moi je me jazz dans la Drôme.
Le cancer du colon, deuxième saison, métastase à Lyon jusqu'en 2014.
J'ai peur que l'avenir de la gauche dans notre pays ne soit compromis pour longtemps.
Rock'n'roll sur Radio Canu.
C'est pas là, c'est pas RTL qui est là, c'est pas France Info qui est là, c'est Radio Canu. Mais mine de rien, il y a des gens qui vont écouter Radio Canu. Mine de rien, c'est la radio la plus rebelle de Lyon. Donc on va pas l'ignorer, ça, non?
Radio Canu.
Voilà, il y en a plein d'autres comme ça sur rock'n'roll.blog avec 2g.org. C'est une émission actuelle de Radio Canu, animée par l'ami Livo. Parce qu'on est en train de discuter, toujours dans l'intempestif sur fréquence Paris Pluriel, de l'histoire de Radio Canu avec Stéphane.
Sur fréquence Paris Pluriel et sur Radio PFM 99.9, voilà, magazine Tumulte.
D'abord, au départ, c'était que quelques heures en soirée. Un jour, il y a eu un choix d'émettre 24 sur 24, chose qui, à l'époque, permettait d'avoir une crédibilité pour le fonds de soutien qui était plus conséquente, quoi. Ce qui fait qu'en fait, entre toutes les heures qu'on a d'émission en direct, on passe des bandes continues, ce qui nous a permis aussi de faire un espèce de moment plus ou moins convivial. C'est le rendez-vous des bandes continues. Les bandes continues, c'est ouvert à tous les animateurs, animatrices de Radio Canu, voire même à des gens de l'extérieur, mais ils ne le savent pas forcément. Et donc tous ces gens viennent avec 2-3 morceaux pour constituer ce qu'on entend quand il n'y a pas d'émission en direct. On s'en sert aussi pour être plus ou moins en règle avec les quotas du CSA sur les jeunes talents et la chanson française. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de privilégier ces morceaux-là pour que chaque émission soit justement beaucoup plus libre de sa programmation. Par exemple, une émission qui voudrait passer que des trucs anglais des années 60, eh ben, ils puissent le faire sans avoir à se galérer à glisser un morceau en français récent ou je sais pas quoi. Donc il y a ça qui a été fait. Au départ, il y a eu aussi une volonté de faire, de placer un peu les émissions qu'on appelle communautaires, c'est-à-dire les émissions dédiées à une communauté, comme des émissions sur l'Amérique latine. Bon, maintenant on en a pas mal, mais. Voilà. Mais à l'époque, c'était surtout à Radio Canu, c'était surtout les latinos en fait. Qui étaient très énergiques au début de Radio Canu et qui ont beaucoup contribué d'ailleurs à comment les programmes se sont faits. Et donc je disais, le samedi et le dimanche, c'était beaucoup consacré à ces émissions-là. À l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. À l'heure actuelle, c'est un peu le bazar. Et finalement, nos bandes continues ressemblent aussi à ça, donc ça crée un peu toute l'identité de Radio Canu, quoi. C'est-à-dire pouvoir écouter du hard rock pendant une heure et hop, tout de suite un jingle de musette, et puis c'est parti pour une heure aussi, sans vraie cohérence.
Il y a beaucoup de musique sur Radio Canu,
ça, ou... Oui, quand même, ouais.
Il y a quoi comme type d'émission, quoi? Un grand type d'émission?
Bon, on a les émissions communautaires, donc on a aussi les émissions musicales, donc dédiées à un style précis, et ce qu'on appelle les émissions d'expression, qui commencent à se faire rare. Je pense que c'est un peu l'époque qui veut ça. Les émissions d'expression, c'est par exemple, là j'en vois une, c'est des syndicalistes qui font des nouvelles sur les luttes sociales, etc. Ou l'émission de la Fédération anarchiste de Lyon, mais qui a changé de nom. Et l'émission du Cirque aussi, qui est le collectif d'information et de recherche cannabique, branche lyonnaise encore. Tout ça, c'est des émissions qu'on dit d'expression, c'est-à-dire que se définissent pas par la musique qu'elles passent, mais par une info très subjective sur un sujet. Bon, c'est un peu des émissions de propagande, si on veut, mais voilà, c'est des... émissions sympathiques, quoi. Après, ça peut être aussi des émissions sur le cinéma ou des trucs comme ça. Enfin, les émissions sur le cinéma qu'on a pu avoir à Radio Canu sont pas des émissions d'information. Il y a tel film qui est sorti, etc. Mais plutôt des vraies humeurs sur ce qui se passe au niveau cinéma. Ça s'est fait aussi au niveau théâtre, BD. C'est un peu ça, les émissions d'expression. Sinon, bien sûr, il y a les Canu Info, qui sont en gros des émissions d'expression, mais qui sont des infos.
Peut-être pour finir, qu'est-ce que toi, comment tu définirais, toi en tant que membre de Radio Canu, comment tu vois le fait de faire de la radio libre aujourd'hui? Ça veut dire quoi?
Je sais pas, c'est un peu un truc des dinosaures, j'ai l'impression. Moi, il y a quelques années, j'étais allé à un congrès de radio et malgré qu'on soit les représentants les plus jeunes sur place, on était les seuls à se faire taxer de dinosaures. C'est un truc qui s'est perdu et qui se perd un peu, je crois. Mais c'est pas quelque chose qu'il faudrait abandonner, etc. Plutôt quelque chose qu'il faudrait faire plus connaître et plus développer. Parce que voilà, à l'heure actuelle, que ce soit les télés ou les radios, tout ça est très formaté, tout ça est très consensuel, quoi. Et les radios qu'on écoute, les grandes radios commerciales, sont pas du tout faites par des gens qui ressemblent à ceux qui les écoutent, quoi. C'est très dommage. Et puis il y a la différenciation animateur-auditeur, que je trouve aussi très très bête et très... je connais beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, non, mais moi, je saurais pas faire de la radio. » Alors que, voilà, moi j'en fais, je sais pas en faire non plus. Mais a priori, il y a des gens qui appellent des fois et qui me disent « Ouais, c'est vachement bien. » Donc ça, je pense que c'est une pratique qui aurait dû se développer plus. Mais c'est sûr que l'aspect commercial... pas que dans les radios, un peu manger tout ce qui pouvait dépasser, quoi. Et voilà, même au niveau musique, c'est assez incroyable de voir que n'importe quelle personne qui est un peu fan d'un certain style sera toujours beaucoup plus intéressant à écouter que quelqu'un dont la programmation est dictée par un label ou par des intérêts commerciaux, quoi.
Merci beaucoup.
Bah, je t'en prie.
Si tu vois d'autres choses qu'on n'a pas vues et qui seront importantes pour Radio Canu.
Eh bien, Radio Canu continue et c'est très possible de participer à Radio Canu en venant, par exemple, présenter un projet ou réfléchir à un projet les mardis soir pour rencontrer les gens de Radio Canu et en parler. Voilà.
Voilà, c'était Stéphane qui nous parlait de l'histoire de Radio Canu. L'intempestive s'est terminée pour aujourd'hui. Vous retrouverez l'émission lundi à 11h sur FPP. Elle sera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Si vous souhaitez découvrir davantage Radio Canu et même l'écouter en direct, c'est faisable sur www.radiocanu.org. Et puis on aura bientôt l'occasion d'accueillir les copains de Radio Canu sur l'antenne de FPP, puisqu'on se mobilise ensemble en ce moment sur le passage à la radio numérique. On parlera très prochainement sur FPP de cette lutte, qui ressemble d'ailleurs sous bien des aspects à la lutte des radios libres au début des années 80, lorsque le monopole venait d'être brisé et qu'il s'agissait de faire valoir son droit à l'existence sur la bande FM.
Voilà, c'était donc l'Intempestive, émission de Fréquence Paris Pluriel consacrée aux 30 ans des radios libres, avec dans cette émission un portrait de Radio Canu à Lyon. Et c'était donc sur Radio PFM 99.9, magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine.